Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Pierre Plantier.
Bonjour, bonsoir. Nul ne voit le monde de la même façon après la mort d'un père. C'est par cet événement que commence le roman dont nous allons parler aujourd'hui. Un événement qui va amener un couple de quinquagénaires à planifier leur mort, à l'organiser pour le jour de leurs 80 ans, en espérant ainsi échapper à la déchéance et aux souffrances de la fin de vie, celles que l'on supporte soi-même et celles que l'on inflige aux autres. Sauf qu'il n'y a pas un scénario, mais 12. Alors vous allez me dire, 12 variations autour de la vieillesse et de la mort, voilà qui doit être plombant et qui vous met le moral à zéro. Eh bien pas du tout, car c'est la romancière américaine Lionel Shriver qui tient la plume, et avec son ironie caustique, son sens de l'absurde et cette douce cruauté qui caractérise son style, elle nous offre un roman plein d'éclats de rire, aussi étonnant que détonnant, bref, une lecture absolument jubilatoire. « À prendre ou à laisser » de Lionel Shriver est paru en français chez Belfond, dans une traduction française de Catherine Gibert, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Lionel Shriver.
Bonjour.
Ce nouveau livre, c'est
That's
d'abord...
That's all my French.
Voilà tout mon français.
Ce nouveau livre, c'est d'abord l'histoire d'un couple, Kay et Cyril Wilkinson, qui habitent dans une grande et respectable demeure à Lambeth, dans le Grand Londres. Et quand débute le récit, Cyril a 52 ans, Kay en a 51, et elle vient de perdre son père à l'hôpital des suites d'une longue maladie. Et cette longue maladie, et notamment les effets de la dégénérescence cognitive, de la dépendance aussi, ont gâché la vie de ses proches pendant de longues années, ce qui fait beaucoup réfléchir le couple sur ce qui va se passer plus tard pour eux, comment eux-mêmes passeront leurs vieux jours et dans quel état ils quitteront ce monde. Le deuil, Lionel Shriver, c'est aussi une prise de conscience.
Well, misery is aware, a way to gain awareness.
Eh bien, le malheur, la tristesse, c'est aussi une prise de conscience. Une des choses les plus horribles qui se produit quand les gens dégénèrent à la fin de leur vie, c'est qu'ils perdent tout ce qu'on aimait chez eux. Et il ne nous reste plus que le fardeau de leur seule existence physique. C'est un scénario dans lequel tout le monde perd, y compris la personne qui est techniquement toujours en vie. Et donc, que je me suis dit que ce serait une bonne inspiration pour ce couple, pour pousser ce couple à décider que ça ne doit pas leur arriver. C'est à la fois une décision égoïste et une décision altruiste, puisqu'ils sont prêts à sacrifier peut-être quelques bonnes années de vie pour s'épargner eux et pour épargner aussi à leur famille et à leurs amis ce type de dégénérescence qu'ils ont subi avec son père. Mais je suis contente que vous ayez remarqué que malgré ce point de départ assez morbide, le livre est en tout cas, à mon avis, hilarant. Parce que j'ai approché cette histoire en termes de forme d'une manière extrêmement ludique. Et donc, ça complexifie évidemment le point de départ. C'est beaucoup plus intéressant que de dire simplement que le couple va mourir, ça peut se passer dans un scénario, et puis hop, ils reviennent au chapitre suivant. Donc on ne peut pas prendre la mort trop au sérieux. Dès qu'un chapitre est terminé, on sait qu'il suffit de tourner la page pour que autre chose lui arrive. Et donc ça apporte une forme de légèreté. Et ça réduit un peu le poids des enjeux.
Voilà, et cette légèreté et cet intérêt que vous suscitez chez le lecteur, eh bien, elle existe dès le début du roman à travers les caractères de vos personnages, parce que Kay et Cyril ont des personnalités très différentes. Cyril est un médecin, il est bien installé, c'est un intellectuel posé, qu'on considère parfois comme un homme assez froid. Kay, elle est plus spontanée, plus passionnée. Ils ont 3 enfants qui ont quitté le nid familial, et ils exercent tous deux des métiers de santé, même s'ils n'ont pas le même rapport à la médecine. Nous sommes à la page 28 de votre roman.
Le National Health Service avait été créé quand Cyril avait 9 ans et le climat général qui régnait après-guerre, dans lequel Kay et lui avaient grandi, fleurait bon la solidarité et le sacrifice. Impatient de prendre part aux grands et nouveaux projets socialistes de son pays, il avait décidé d'être généraliste à l'âge de 15 ans. Par conséquent, malgré le scandale du sang contaminé au virus HIV et à l'hépatite C de l'Agence nationale du sang dans les années 1980 et le cauchemar de l'envol des coups, son engagement professionnel dans ce que les hommes politiques, tout comme les patients, appelaient affectueusement « notre NHS » était resté inébranlable. À partir de son premier internat, la question ne s'était plus jamais posée. le docteur Cyril J. Wilkinson serait marié à vie au NHS. Kay, en revanche, avait choisi de faire des études d'infirmière par opportunité. À la fin des années 1950, le métier d'infirmière était l'un des rares ouverts aux femmes. Pourtant, Kay n'était pas taillée pour ce travail. Gamine, elle était peureuse, allergique aux aiguilles, et lorsqu'elle piquait un patient, il fallait qu'elle s'imagine faire une injection à un rôti de porc pour ne pas défaillir. Elle pouvait faire preuve de générosité, mais pas au point de se sacrifier, et rêvait d'une reconnaissance personnelle que les professions de santé n'offraient pas. Bien qu'elle ait été tout à fait compétente et très loin d'être effacée au service d'endocrinologie de Saint-Thomas, elle n'avait jamais considéré le métier d'infirmière comme une vocation. Elle prit donc sa retraite à l'âge légal de 55 ans et s'inscrivit aussitôt à un cycle de décoration d'intérieur à Kingston University. Se réinventer impliquait de venir à bout de l'opposition farouche de son mari. Elle fut obligée de lui rappeler le nombre incalculable de fois où il avait salué son sens esthétique. Il faut dire qu'elle avait rénové seule leur maison de Lambeth, qui avait désormais du cachet et attirait les commentaires flatteurs. Après avoir obtenu son diplôme et s'être inscrite au registre du commerce, elle travailla d'abord pour des amis, ce qui lui fit sa propre publicité et lui permit d'acquérir très vite une réputation. Avec le temps, Kay se construisit une toute nouvelle carrière, beaucoup plus amusante.
Alors Lionel Shriver, pourquoi est-ce que vous avez choisi un personnage de médecin et un personnage d'infirmière ? Un homme et une femme qui ont évolué à l'hôpital à travers leur profession de santé.
Je pensais que ça rendrait le sujet abordé par le livre un peu plus pointu, parce que nous sommes tous confrontés au vieillissement, en tout cas si nous avons de la chance, même si c'est ironique. Mais les médecins doivent vraiment affronter les aspects les plus difficiles et très concrets du vieillissement et de la morbidité d'une façon plus intime et d'une façon continue aussi, davantage que la plupart des gens. Donc c'était un sujet dans leur vie, pas uniquement au vieillissement de leurs propres parents, mais à travers leur vie professionnelle. C'était aussi important, en particulier pour Cyril, parce qu'il est plus engagé d'un point de vue idéologique auprès de ce système de santé de la NHS. Toutes ces personnes qui vieillissent et qui restent, avec toutes sortes de comorbidités, c'est le terme utilisé pendant la pandémie de Covid, tout ça, ça coûte une fortune au système de santé et il ne veut pas faire partie des personnes qui vont être un fardeau pour ce système de santé auquel il a consacré sa vie.
Et c'est donc Cyril qui propose à sa femme un pacte. Le jour des 80 ans de Kay, ils quitteront ce monde en absorbant une substance mortelle qu'ils conserveront précieusement d'ici là dans leur réfrigérateur. Et petit détail piquant, à l'intérieur d'une boîte en carton qui contenait à l'origine un porte-savon. Où êtes-vous allé chercher une idée pareille ?
Il se trouve que j'ai une petite boîte qui contenait auparavant un porte-savon. Je n'ai plus le porte-savon, mais j'ai toujours la boîte. Et cette boîte était jolie. Et j'ai tendance à être un peu fétichiste des boîtes. Mais j'ai eu cette idée de la mettre au frigo par une amie dont le père était médecin et a fait exactement ça. C'était une histoire de la vraie vie qui était particulièrement poignante à mes yeux parce que ce médecin, donc le père de mon ami, est mort. Sans doute quand son heure était venue et il avait encore toute sa tête. Il n'a pas eu besoin de prendre ses médicaments, il est mort de causes naturelles. Et sa famille l'a beaucoup regretté, mais sa femme, la mère de mon ami, elle a continué. Elle savait que ses médicaments étaient là, qu'ils étaient disponibles. Mais ensuite, elle a été atteinte de démence sénile, une démence atroce au point que ça n'avait plus aucun sens pour elle de lui suggérer de prendre des cachets qui la tueraient parce qu'elle ne savait même plus ce qu'elle faisait. Donc, le consentement n'était plus possible pour elle. Donc, c'est encore une fois une illustration du dilemme que ce couple essaie de résoudre. Comment aller jusqu'au bout ? Il y a toujours le risque d'être pris dans cette communauté de la démence qui est ce syndrome de midi-5. C'est en fait, ça signifie tout simplement qu'on vous avait attendu tellement longtemps que c'est trop tard. C'est pour ça qu'ils ont fait ce pacte. S'ils étaient tous les deux en très mauvaise santé au moment d'arriver à l'anniversaire de Kay, à ses 80 ans, alors ça leur paraîtrait un soulagement. Mais bien sûr, en réalité, ils n'ont que quelques petites douleurs. Donc la question, c'est de savoir s'ils vont faire ce qu'ils ont dit, parce qu'ils risquent effectivement de sacrifier quelques années de bonne vie.
Mais alors, en attendant la date fatidique, en attendant les 80 ans de Kay, il faut évidemment continuer à vivre. Alors, dans cette perspective-là, connaître avec certitude la date de sa mort, est-ce que ça change la vie, là, Lionel Shriver ?
Yes, very much so. I mean,
oui,
one
complètement.
Of my favorite, passages
l'un
is,
de mes passages préférés,
when Kay is coming up
c'est le moment où
Kay
arrive, aborde son anniversaire, en tout cas pour la première fois dans le livre, puisque ça va se reproduire dans les chapitres suivants. Et elle commence à se dire, elle commence à se demander si c'est la meilleure manière dont elle peut utiliser le peu de temps qui lui reste. Elle se demande si elle veut passer ce temps à lire un magazine qu'elle lit depuis des années. Et puis, quand on y réfléchit, le temps a toujours été en quantité limitée. Donc, si c'est un gâchis que de lire le magazine maintenant, alors ça veut dire que ça a toujours été un gâchis de lire ce magazine. Et donc, elle commence à analyser tout ce qu'elle fait. Par exemple, la manière dont elle passe son temps tous les soirs qui lui reste de cette semaine, alors qu'il lui reste peut-être cinq semaines de temps. Est-ce qu'elle préfère voir ses enfants ? Est-ce qu'elle préfère passer du temps avec son mari ? Et c'est le moment où elle se rend compte qu'il y aura toujours de toute façon un nombre limité de mardis ou de jeudis. Et pourquoi est-ce que ça n'a pas été aussi important tous les mardis et tous les jeudis de sa vie ?
Et Kay et Cyril ne vont pas du tout vivre cette période de la même façon. Kay en plus réfléchit à l'organisation des obsèques, de la messe, ça la passionne. Commentaire de son mari Cyril, je cite, « Écoute, ça fait des semaines que tu es sur cette messe, je crains que tu oublies un petit détail important, on n'y sera pas. » Et là forcément le lecteur, en tout cas moi, j'ai vraiment éclaté de rire. Alors quand arrive le jour fatidique, donc le soir des 80 ans de Kay, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, plein de choses. Alors, on pourrait jouer le suspense, là, Lionel Shriver. Vont-ils sauter le pas ? Vont-ils renoncer au dernier moment ? Seront-ils unis jusque dans la mort ? Ou l'un ou l'une des deux va-t-il choisir de continuer à vivre ? Et s'ils continuent à vivre, comment vont se passer leurs vieux jours ? Alors, il n'y a pas vraiment de suspense dans le livre, puisque vous avez choisi de ne pas choisir. Vous proposez à vos lecteurs toute une série de situations possibles, ce qui donne donc 12 variations qui s'enchaînent d'un chapitre à un autre. D'abord, avant de parler de la mécanique de construction du roman, comment l'idée de ces variations vous est-elle venue ?
J'ai déjà écrit un roman qui se passait dans des univers parallèles. La double vie d'Irina, c'était mon huitième roman. Il y avait un premier chapitre et puis ensuite la narration se terminait, se scindait. Il y avait deux chapitres 2, deux chapitres 3, en fonction du choix que faisait mon personnage principal, si elle choisissait un homme ou un autre. Et je me suis énormément amusée à faire ça.
And I like that playfulness. Now,
et j'aimais l'aspect ludique. Ce n'est pas une structure que j'ai inventée, ça a déjà été fait. Mais je pense que la clé, quand on utilise ce genre de technique qui n'a plus rien d'expérimental, c'est qu'il faut que ça serve un objectif. Et dans le cas de la double vie d'Irina, j'essayais de comprendre la différence que ça peut faire dans la vie d'une femme ou de n'importe qui d'ailleurs, la différence que nos choix amoureux peuvent faire. Comment est-ce que ça influence le reste de nos vies ? Donc il y avait un objectif très clair dans la comparaison que je faisais et les allers-retours entre une vie avec un homme et une vie avec l'autre. Et dans le cas de ce livre, il y avait aussi un objectif. Chacun de ces chapitres, dans chacun de ces chapitres, il y a au moins un des deux membres du couple qui ne va pas au bout de ce pacte de suicide. Et donc, ce que j'observe, c'est qu'est-ce qu'ils auraient manqué, qu'est-ce qu'ils auraient raté s'ils étaient effectivement, si c'était suicidés tous les deux. Donc, c'est une exploration de futurs alternatifs. Certains sont de la science-fiction. Il y a un certain nombre de scénarios où, par exemple, ce qu'ils auraient manqué, c'est en fait assez horrible. Il y a un chapitre, par exemple, dans lequel on assiste vraiment à la fin de la civilisation occidentale et qui pose la question, si le Parlement brûle, si la Galerie nationale est mise à sac, la National Gallery, pardon, le musée, si les tableaux sont massacrés et qu'on termine réfugié dans un grenier pendant que votre maison est envahie par les anarchistes et les immigrés, est-ce que vous avez vraiment envie d'assister à ça? Ou est-ce que vous préféreriez ne pas le savoir? Et je crois que c'est une question intéressante. En ce qui me concerne, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup de mal à y répondre. Parce que je suis très curieuse et je suis énormément dans l'actualité. Je passe énormément de temps à lire les journaux tous les jours. Donc je suis prise en permanence dans cette histoire, dans ce récit, dans tous ces récits différents qui sont simultanés dans le monde. Et en même temps, il y a certaines directions que ces récits pourraient prendre auxquelles je ne suis pas très envie d'assister. Oui. Je pense qu'il y aurait un certain inconfort personnel dans ce qui pourrait se produire.
Alors les chapitres se répondent entre eux. Hein. Parfois, d'un chapitre au suivant, la même situation est racontée, mais avec un tout petit bémol qui change tout. Est-ce que c'est une façon de nous dire qu'au fond, notre vie, notre destin ne tient pas à grand-chose ?
Yes, there's definitely the fickleness of fate is one of the
clairement cette idée que le destin est quelque chose d'extrêmement fugace et fragile. Et il y a un motif qui revient régulièrement dans les chapitres. On le remarque au fur et à mesure. Il y en a plusieurs. Par exemple, il y a ce motif de ce que les Britanniques appellent le type à la camionnette blanche. Je ne sais pas pourquoi ces types conduisent toujours des camionnettes blanches, mais c'est le cas. Dans la culture britannique, le type à la camionnette blanche n'est pas une métaphore. C'est vraiment un type qui conduit une camionnette blanche et ils conduisent toujours très mal, comme des rustres. Ils ne s'arrêtent jamais au passage piéton. Et dans plusieurs scénarios, le type à la camionnette blanche va faire la différence dans ce qui va arriver à mon personnage. Et ce qui m'amuse, c'est que c'est presque comme tisser, comme réaliser un tissu et avoir un fil de temps en temps qui sort de manière irrégulière, comme une petite touche de rouge d'un seul coup et puis qui va ressurgir à un autre endroit. C'est presque comme tisser ou peindre. Il y a un aspect, un sentiment presque visuel là-dedans.
Mais pour prendre justement la métaphore du tisserand, justement Lionel Shriver, est-ce que vous aviez un modèle à la base ? Est-ce que vous avez construit ce roman avec un plan très précis, je ne sais pas, des schémas, des flèches, des tableaux, avant de vous lancer dans l'écriture ? Ou est-ce que vous avez tiré le fil vraiment au fur et à mesure est-ce que vous vous êtes en quelque sorte laissé guider par votre plume ?
Je me suis posée un après-midi, effectivement, pour cartographier l'ensemble du livre. À vrai dire, ça ne m'a même pas pris une après-midi, ça a dû me prendre une heure et demie. Je jouais avec cette idée depuis un moment déjà. Donc j'ai simplement dressé une liste des différents scénarios. Je ne les ai pas suivis entièrement. Il y a eu plusieurs fois où j'ai combiné des idées, mais à ma surprise, j'ai fini par suivre ce scénario, qui était pourtant très surprenant au départ, et j'ai même écrit dans l'ordre où j'avais fait ma liste. Même si pourtant, je me suis autorisée à l'écrire aussi de manière arbitraire. Mais plus les idées arrivaient, plus elles étaient folles. Donc il y a même un chapitre dans lequel on utilise la cryogénie pour conserver les corps ou ranimer les morts. Des centaines, voire des milliers d'années plus tard, on ne sait même pas combien.
Donc j'avais
l'impression de m'amuser énormément. C'était en fait, c'est le livre le plus amusant que j'ai écrit. Il y avait quelque chose qui était de l'ordre de l'absence d'effort. Ce n'est pas quelque chose que je ressens à chaque fois. Il y a certains manuscrits qui sont beaucoup plus difficiles à écrire. Par exemple, quand j'écrivais Big Brother, qui est un livre vraiment inspiré par la perte de mon frère aîné, qui des suites des complications d'une obésité morbide, c'était un matériau qui était encore douloureux pour moi.
I didn't enjoy writing it as much.
Même si ce livre abordait les choses d'une manière peut-être plus légère, c'était trop lourd. J'ai pas pris beaucoup de plaisir à écrire ce livre parce que le matériau était lourd d'un point de vue concret, physique et aussi métaphorique pour moi. Mais ce livre-là, c'était vraiment un délice. J'en ai écrit la première moitié avant le début du confinement. Dans le contexte du Covid, et en fait, j'étais dans une situation compliquée parce que j'avais besoin que l'anniversaire de Kay, qui est vraiment le moment pivot du livre en termes de temporalité, je voulais que cet anniversaire soit le plus contemporain possible. Donc, j'ai commencé à Noël 2019,
en mars.
Et j'avais décidé que l'anniversaire aurait lieu en mars
2020.
C'est seulement trois mois plus tard. Je me suis dit, bon, il ne peut pas se passer grand-chose en trois mois. Et je n'arrive pas à croire ce qui s'est passé. Et en fait, j'ai dû revenir sur mon manuscrit et réécrire certaines parties pour inclure le COVID. Soit il aurait fallu que je change la date, soit il fallait que je l'inclue. Ce n'est clairement pas un livre qui parle du COVID. J'ai peur de tous ces gens qui ont écrit des livres sur le COVID-19. En tout cas, j'ai bien peur qu'ils ne se vendent pas très bien. Mais c'était simplement un outil pratique de plus, très utile en particulier par rapport à leur pacte. Parce que, comme ça aurait été bizarre que cette promesse de se suicider ensemble, d'un seul coup, se soit confronté à la mort de centaines de personnes âgées autour d'eux et que d'un seul coup, il n'y ait plus rien de très spécial dans le fait de mourir à 80 ans.
Donc,
au final, ça a été un hasard plutôt amusant, une coïncidence.
Et c'est vrai que dans le roman, le virus surgit d'abord subrepticement et ensuite d'une façon beaucoup plus violente. Nouvel extrait du livre, nous sommes cette fois-ci à la page 63.
En moins de deux jours, alors que l'indice FTSE 100 plongeait à nouveau jusqu'à son plus bas niveau depuis 1987, quelle joie d'avoir liquidé leur action. Tous les rendez-vous que Kay avait programmés avec minutie pour son dernier mois, y compris les dîners d'adieu avec les trois enfants réunis, furent aussi annulés. Amis et famille se tenaient à distance pour le bien du couple, car tout individu de plus de 70 ans devait être protégé d'une maladie dont les victimes avaient en moyenne plus de 80 ans, ce qui fit dire à Cyril « Je reconnais que ce virus a bon goût, démographiquement parlant. On n'aura peut-être pas besoin de se servir de cette boîte noire dans le frigo », glissa Kay. Évoquer frontalement la chose était si rare que cela semblait transgressif. Le jour de mon anniversaire, il suffira de sortir dans la rue et de respirer à plein poumon. Vu notre situation, lâcha Cyril dans son dos tandis qu'elle était penchée au-dessus de l'évier, tu peux me dire pourquoi tu continues de te laver frénétiquement les mains ? Ah, soupira Kay, qui avait déjà commencé à chanter joyeux anniversaire dans sa tête, ainsi que Boris avait conseillé à ses compatriotes de le faire, et ce deux fois de suite avant de mettre fin à ce geste prophylactique. Mais Cyril avait raison. Éviter une infection mortelle pour être en état de se suicider était pour le moins incohérent.
Alors effectivement, vu sous cet angle, à quoi bon ? Alors toujours cette petite goutte d'ironie qui sort de votre plume, Lionel Shriver. Est-ce que l'Américaine que vous êtes a été contaminée non pas par le Covid, mais par ce que certains appellent l'humour anglais ?
I think I always had British humor.
Je crois que j'ai toujours eu l'humour anglais.
As well, you know, the British have this conceit.
C'est aussi une erreur d'ailleurs que font les Britanniques que de penser que les Américains n'ont aucun sens de l'ironie. C'est n'importe quoi. Il y a un certain type d'Américain qui n'a pas de sens de l'humour au sens où il ne perçoit pas l'ironie ni rien d'autre d'ailleurs.
Mais
je crois que je suis naturellement à l'unisson avec ce sens de l'humour britannique en ce qui me concerne. C'est ce que je préfère dans ce pays d'ailleurs.
sitting in the morning sun. I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. 'Cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. What 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on a dock of the bay, wasting time.
Otis Redding dans VMDN sur RFI, Sitting on the Dock of the Bay, un refrain que l'on entend à plusieurs reprises dans votre dernier roman « Apprendre ou à laisser » Lionel Shriver. Pour quelle raison? Pourquoi cette chanson-là?
Well, for one thing, I just love it.
D'abord, déjà, je l'adore.
C'est une bonne raison.
This is their song.
And, c'est leur chanson à ce couple.
It especially recalls the chapter,
ça
called
rappelle en
time
particulier
Lambeth,
le chapitre « Il était une fois à Lambeth »,
this is the fairy tale
qui est le
ending.
Chapitre du scénario de Contes de fées.
It's not the last chapter.
Même
non.
Si, en réalité, ce n'est pas le dernier du livre.
And they get... They get to 110 and 111
ils
and they're in perfect health because
110
of course they eat their vegetables
ans, and, parfaite,
and they do their exercise.
Ils mangent leurs légumes, ils font du sport.
They're more beautiful than they've
ils
ever
sont
been.
Plus beaux que jamais.
Young people flock to their dinner table.
Les
and
jeunes
ask
se
for
pressent à leur table
and
quand ils organisent des dîners, leur demandent leurs conseils, les admirent dans tout ce qu'ils font. Ils ont tous les deux une seconde carrière avec énormément de succès. Et puis à un moment où on se dit, bon, attendez, c'est un peu ridicule, en fait, ça ne peut pas arriver. Et effectivement, non. Moi, je pense que c'est un des chapitres les plus drôles du livre. Parce que c'est vraiment ce que tout le monde veut et ce que personne n'obtient. Mais la fin,
c'est... And
ils
all
organisent
these,
donc leur
it's,
propre,
it's overflowing with people. Everyone
leur propre
them.
Veillée funèbre
and
et qui est en fait bondée, il y a énormément de gens parce que tout le monde les adore et ils vont au fond de leur jardin et là il y a Otis Redding qui est là
the
en
moon
vrai
rises,
et la lune se lève
and, you know, the end.
Et c'est la fin.
It's a nice story.
C'est une jolie histoire.
Je vous confirme. Apprendre ou à laisser sort donc demain aux éditions Bellefond en France et dans le même temps sort en poche chez Pocket votre précédent roman 4h22 minutes et 18 secondes qui évoquait l'engouement autour de la course à pied mais qui parlait aussi dans une certaine mesure de la peur de vieillir. Le vieillissement, c'est une question qui vous obsède, Lionel Shriver?
I am now.
Eh bien, je suis en plein dedans.
Yeah, this is more like I didn't go looking for this material.
Je
this material
pas
came looking
cherché
for me.
Ce sujet, c'est ce sujet qui est venu me trouver.
And so, you know, I crossed the grim milestone of
j'ai
65
passé
this
le
last
cap
year.
Terrible de 65
and,
ans l'année dernière.
Yeah, that's what writers do. They,
et voilà ce que font les écrivains,
they turn bad things to
ils font
material.
De ce qui so, leur arrive de plus terrible en matière à écrire. Donc oui, c'est un processus fascinant. La vie est fascinante.
And it's so obvious to
c'est tellement évident.
The smallest little child, what happens to people.
Même pour un petit enfant,
you know,
ce qui arrive aux gens,
then you start falling
on grandit,
apart and then you die.
Et puis
what's interesting,
ensuite on commence à tomber en morceaux et puis on meurt.
It never seems as if it's going to happen to you.
On n'a jamais l'impression que ça va nous arriver à nous.
As a surprise.
Et on est quand même toujours surpris au moment où ça se passe.
Is part of the surprise.
Et le fait que ce soit une surprise, ça fait partie de la surprise. À quel point est-ce qu'on est idiot pour ne pas avoir reçu le message et compris ce qui allait nous arriver? Pourquoi est-ce qu'on s'est aussi étonnant de vieillir? Et pourtant, ça l'est. Et ça l'est vraiment. Et inévitablement, on commence à se demander, non mais attendez, de quoi est-ce que vous parlez 65 ans? Qu'est-ce que ça veut dire? Mon âme n'a pas 65 ans, je suis jeune. J'ai toujours été jeune. C'est pas juste. Ne me traitez pas comme ça. Je suis jeune.
I think it's intrinsically comic.
Je pense qu'il y a quelque chose d'intrinsèquement comique là-dedans.
Dans ces deux romans, on retrouve un des thèmes récurrents dans vos livres, le rapport entre le corps et l'esprit, l'importance du corps dans nos vies. Est-ce que vous diriez que finalement, notre corps décide pour nous?
Oh, it's an incredibly complex relationship.
C'est une relation extrêmement complexe.
The fact that it is a relationship.
Et le fait qu'il y ait une relation fait partie de la complexité.
You just be something.
On pourrait croire qu'on est simplement quelque chose, soit un être animal qui sait survivre. Mais en fait, il y a une séparation. C'est ça qui est un peu bizarre.
And our relationship to the body.
Et notre relation au corps.
Usually becomes much more.
Devient généralement beaucoup plus compliqué en vieillissant. Parce qu'il y a cette déconnexion entre notre vision de nous-mêmes et ce qui arrive à notre corps. C'est une déconnexion qui devient presque totale quand on est dans la maladie ou qu'on est gravement handicapé.
If you go through a horrible auto accident,
si
you have to start dealing with
accident atroce,
how much were you that body?
Vous êtes confronté à la question de savoir combien vous jusqu'à quel point est-ce que vous êtes ce corps?
Also been damaged.
Jusqu'à quel point est-ce que votre être même a aussi été blessé et abîmé?
I think in my case, je pense que dans mon cas,
un accident très grave, ce serait par exemple quelque chose qui m'empêcherait de faire du sport, qui m'obligerait à devenir extrêmement sédentaire, à vivre exclusivement dans l'esprit. Je pense que ce serait quelque chose qui ruinerait totalement ma vision de moi-même. Je ne sais pas si c'est vrai pour tout le monde.
Endlessly fascinating.
Mais je trouve fascinant d'examiner ce rapport entre le corps et l'esprit. Ça me fascine éternellement. Je pense que je n'ai pas fini avec ce sujet.
En fait,
en tant qu'œuvre, c'est probablement le sujet principal que j'ai traité.
And this is what I dealt with. In my obesity novel, Big Brother.
Ce que j'ai fait, par exemple, dans mon roman sur l'obésité, Big Brother.
Huge judgments about each other, depending on.
Nous portons énormément de jugements sur notre apparence physique.
Quite superficial.
Nous sommes en fait très superficiels dans notre vision les uns des autres.
Say, oh, I'm not my body. Well,
donc
we
dire
«
je ne suis pas mon corps », en même temps, on considère les autres comme s'ils étaient leur corps.
Very
donc, d'un point de vue social aussi, c'est très complexe. Et je pense que quand on commence à connaître les gens de façon plus intime, alors cette distinction entre le corps et l'esprit commence à se faire comme on l'a fait pour soi-même. Je trouve tout simplement ce sujet infiniment intéressant. Et j'espère que ce sera aussi le cas pour mes lecteurs.
Alors, chacun des chapitres vous permet d'aborder, y compris souvent avec beaucoup, beaucoup d'humour, des questions quand même très difficiles. Le veuvage, la dépendance, le handicap, la perte de mémoire, la dégénérescence cognitive, le syndrome d'enfermement, la question de la dignité de la personne, l'euthanasie et la fin de vie. Ce sont des questions très difficiles, mais est-ce que l'écriture de ce livre vous a aidé à trouver des réponses, vos réponses à vous?
Not really.
Pas vraiment.
No, it just sort of landed me right
non,
back where I started.
Ça m'a renvoyé quelque part à mon point de départ.
True of most books,
je crois que c'est ce qui se passe avec la plupart des livres, y compris les miens.
For example, I mean,
par exemple,
like my characters, I have
J'aime mes personnages.
No appetite for outliving my usefulness.
Je n'ai, comme mes personnages, je n'ai aucune envie de continuer à vivre quand je ne serai plus utile et de m'effondrer et de perdre la tête, mais je n'ai pas fait de pacte suicidaire. Je doute de ma capacité à aller au bout si je me retrouvais dans cette situation, la même que celle de mes personnages. Celle d'avoir ce jour J qui arrive. Je pense qu'il y a quelque chose que j'ai retenu en écrivant ce livre. C'est peut-être une façon d'apprécier la férocité de la volonté de survie du corps. L'instinct de survie est monumental. C'est vraiment incroyable. Et je ne suis pas différente.
You know, I say, oh, there are all these conditions I would put on wanting to stick around the planet because I'm
toutes ces conditions qui feraient que j'aurais envie de rester sur Terre parce que j'ai la chance d'avoir une très bonne santé. Donc j'imagine que je ne voudrais rester qu'à un certain nombre de conditions. Mais en écrivant le livre, j'ai mesuré à quel point on commence finalement à marchander avec l'univers. J'ai toujours pensé que je ne supporterais pas une vie sans tennis. Et puis, si c'est rien ou une vie sans tennis, bon d'accord, ok, je laisse tomber le tennis. Bon, je ne peux plus marcher. Eh bien, ces petits scooters pour les personnes âgées sont assez drôles finalement. Donc j'ai compris, en d'autres termes, que j'étais pareil que tout le monde et que je m'accrocherais probablement la vie si ça m'était autorisé jusqu'à 90 ans, voire au-delà de 100 ans, et je m'y accrocherais jusqu'au bout,
bec et ongle.
Et c'est beaucoup plus probable que de prendre des comprimés qui seraient au fond de mon frigo.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Alors, est-ce que vous avez reconnu cette chanson, Lionel Shriver?
I didn't right away.
Pas tout de suite.
But I understood why you chose it.
Mais j'ai compris pourquoi vous l'avez choisi.
Because one of the things that I explore
parce qu'il y a un des sujets que j'explore.
The nursing home from hell.
C'est la maison de retraite de l'enfer.
Voilà, donc là c'est le générique des Schtroumpfs, The Smurfs, en anglais, qui accompagne effectivement une des scènes les plus drôles, les plus étonnantes, les plus inattendues de votre roman. Ça se passe effectivement dans une maison de retraite. Mais comment l'idée d'inviter les Schtroumpfs dans cette maison de retraite vous est-elle venue?
Honnêtement,
je crois que je suis tombée dessus dans un article de journal. Je ne me souviens pas, mais je crois que c'était en France. Une sorte de congrégation de gens qui étaient tous habillés en schtroumpf. Et j'étais en train de chercher un moyen de faire sortir mon personnage de cette maison de retraite. Et ces schtroumpfs venaient rendre visite aux résidents de la maison de retraite pour les égayer, comme s'ils avaient besoin de ça. Et donc, mon personnage se déguisait en schtroumpf pour s'échapper.
Alors là, cette scène se passe effectivement dans une maison de retraite dirigée par une femme médecin, le docteur Mimi. On parlait tout à l'heure de la construction du livre, mais un mot des personnages, Lionel Shriver. Vous avez, par exemple, les trois enfants du couple qui ont des valeurs, des priorités, des psychologies très différentes et qui, eux aussi, vont à un moment ou à un autre influer sur le destin de leurs parents ou en tout cas faire bifurquer leur destin. Les personnages se façonnent au fil de votre écriture ou vous avez des réflexions, des fiches, des cartes d'identité au préalable?
Oh, they develop as I go along.
Ils se développent en écrivant.
I have to say, for the most part, I wouldn't want to be one of the children.
Pour l'essentiel, je n'aimerais pas être à la place des enfants de notre roman. Ils ne s'en sortent pas très bien. Peut-être que j'essaie toujours secrètement de me convaincre que j'ai pris la bonne décision en n'en ayant pas. Les trois enfants ne sont pas exemplaires. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles j'ai fait ça,
They're annoying.
Ils sont assez agaçants.
Is that it made it more c'est que psychologically likely that
ça rendait plus probable, crédible d'un point de vue psychologique que leurs parents puissent envisager un suicide.
They weren't leaving behind this
ils n'allaient pas laisser derrière eux une famille idéale et aimante qui serait dévastée par leur départ.
I think that was a kind of
donc je pense que c'était
instinctif plotting on my part.
Comme décision de ma part.
Elizabeth, my dear, The Stone Roses dans VMDN sur RFI avec Lionel Shriver pour son roman « Apprendre ou à laisser » aux éditions Belfond. Et dans l'intervalle entre la sortie britannique et la sortie française, prévue d'ailleurs le 26 janvier, je le précise, la reine Elizabeth est morte à l'âge de 96 ans. Alors, il y a plusieurs allusions dans le roman à la longévité de la souveraine. À un moment, elle bénéficie même d'un nouveau traitement anti-vieillissement qui lui redonne une nouvelle jeunesse, à la grande fureur de Camilla Parker Bowles, qui se dit que son prince Charles de Marie, décidément, ne montera jamais sur le trône. Avant de mourir, est-ce que pour vous, Elisabeth II avait atteint déjà une forme d'éternité ?
Yeah, I thought that because I invented this drug that
j'ai inventé évidemment ce médecin, ce médicament qui guérit le vieillissement et qui permet à tout le monde de vivre pour toujours. Je me suis demandé qui aurait accès en premier à un tel traitement. Évidemment, la famille royale et bien sûr les Britanniques sont extrêmement attachés, ou en tout cas ils l'étaient, à la reine Elisabeth
II.
Et je savais que sa mort serait considérée comme une grande tragédie. Il y a quelque chose qui me faisait toujours un peu peur, qui m'a fait peur au moment où j'écrivais le chapitre, c'est que je me suis dit, mince, et si je publie ce livre pile au mauvais moment, et que cette idée de donner un traitement à la reine pour qu'elle vive à jamais soit considérée comme de très mauvais goût. J'ai pris le risque. Mon livre a été publié avant sa mort. En tout cas, au moins quelque part, elle vit éternellement.
Le livre est très ancré, on le disait tout à l'heure, dans l'actualité britannique des années 90 à 2020, avec notamment les débats très animés autour du Brexit. Il y a des références très précises à des moments de la campagne référendaire, aux élections législatives, aux débats télévisés, aux meetings politiques. Cyril, le mari, prend d'ailleurs la question très très à cœur. Il est très anti-Brexit, il parle d'un suicide national. Alors en fait, son suicide à lui, son suicide individuel, il en fait un geste citoyen, mais le suicide collectif, le suicide politique, il milite vraiment ardemment contre. Il trouve même, paradoxalement, une nouvelle vie dans cet engagement politique. Quel regard portez-vous, Lionel Shriver, sur la façon dont le débat autour du Brexit s'est déroulé ?
Well, I am on the record as having supported Brexit.
On sait que j'ai soutenu le Brexit et que j'ai perdu énormément de lecteurs à ce moment-là et probablement aujourd'hui en France, juste au moment où je viens de le dire. Mais j'ai fait de Cyril un partisan ardent du Remain, de rester dans l'Union. Personnellement, j'ai été pour le Brexit, mais j'aurais aussi pu défendre tout aussi bien l'idée que la Grande-Bretagne reste dans l'Union européenne. Je ne crois pas que ça compte à ce point. Sur le plan global, c'est ça qui était étrange dans la façon dont on a vécu ça au Royaume-Uni. Si on prend un peu de recul, quelles sont les conséquences vraiment ? C'est pour ça que ça m'a plu d'utiliser ça dans le livre. Bien sûr, ce n'est pas plus un livre sur le Brexit que ce n'est un livre sur le Covid, mais j'aimais bien cette idée que Cyril Et là, à l'aube de sa propre disparition, il s'apprête à se tuer, à tuer sa femme, ce sera la fin de tout pour lui. Et pourtant, il est toujours à s'échauffer sur la question du Brexit. Ça donne un peu de recul sur les points de vue. Et en même temps, d'un point de vue psychologique, c'était aussi très crédible. Parce que le Brexit, pour lui, c'était vraiment quelque chose qu'il a tellement passionné. Il est tellement contre. Il pense tellement que c'est une erreur affreuse pour le pays. Que pour lui, ça représente la passion au sens large. Ça représente son attachement au monde. En réalité, il est attaché au fait d'être vivant.
Et vous-même, Lionel Shriver, avec le petit recul que l'on a, quel bilan la partisane du Brexit que vous étiez en tire-t-elle ?
Mais je crois qu'on ne saura jamais vraiment si c'était une bonne idée ou une catastrophe, parce que ce n'est pas une expérience qui s'est déroulée dans des conditions contrôlées. Il y a eu le Covid, maintenant il y a la guerre en Ukraine. Il est assez évident que, en tout cas, le Royaume-Uni n'a pas fait grand-chose de cette indépendance, n'en a pas tiré un grand avantage. L'état actuel du Parti conservateur, c'est un champ de ruines. Ça ne vaut même pas la peine d'en parler.
Donc,
est-ce que ça a libéré le pays? Est-ce que ça l'a fait passer dans un nouveau monde de liberté et de retour de l'idée de nation dans toute sa gloire? Non, évidemment que ce n'est pas ce qui s'est passé. Mais j'ai toujours eu des attentes très modestes. En fait, j'ai écrit un essai bien longtemps avant que le Brexit lui-même ait lieu. C'était juste après le référendum, mais dans ce moment un peu trouble avant la sortie de l'Union. Et en fait, j'avais exposé les scénarios des deux points de vue. Et ce que je disais, c'était que quel que soit le camp dans lequel on est, ça n'allait pas déterminer grand-chose. Rester dans l'Union européenne n'allait pas changer beaucoup la vie de ceux qui voulaient y rester, et quitter l'Union européenne n'allait pas non plus énormément améliorer la vie des Brexiteurs. Ils auraient toujours le mauvais temps et puis des divorces. J'ai clairement exprimé que ça ne comptait pas pour grand-chose et je pense que c'est toujours le cas.
Merci beaucoup Lionel Shriver d'être passé dans les studios de RFI. À prendre ou à laisser, votre nouveau roman sort donc chez Belfond le 26 janvier dans une traduction de Catherine Gibert. Merci à vous et merci à Marguerite Capelle qui, quant à elle, a traduit vos propos en direct en studio. Demain, le chef d'orchestre Marc Minkowski sera avec nous. Il dirige actuellement des opéras de Mozart à l'Opéra Royal du Château de Versailles et il publie aux éditions Séguier ses confessions intitulées Marc Minkowski, chef d'orchestre ou centaure, avec la collaboration d'Antoine Boulet. Dans un instant, le journal sur RFI et vous m'en direz des nouvelles.